Normandie pour la paix,
le podcast.
C'est le moment de se retrouver pour accueillir l'un des nombreux invités de cette cinquième édition du Forum mondial Normandie pour la paix. Et je ne suis pas seule à mener cette interview. À mes côtés, Philippe Riflet, journaliste et directeur délégué du groupe Publié Hebdo et Actu.fr. Bonjour Philippe.
Bonjour Élodie.
Et pour nous accompagner pendant ces prochaines minutes, nous accueillons un auteur qui s'est plongé dans les correspondances de soldats alliés avec leurs familles pendant le débarquement et la bataille de Normandie et qui en a tiré entre autres un livre aux éditions Ouest France, Till Victory, Lettres de soldats alliés, ainsi qu'un documentaire. Bonjour Clément Horvat.
Bonjour, merci de me recevoir.
Qu'est-ce qui vous a mené d'abord à recueillir pendant 15 ans des milliers de lettres envoyées du front durant la Seconde Guerre mondiale?
Mais en fait, moi j'ai commencé la collection comme tout passionné d'histoire, avec des casques, des pièces d'uniforme, ce genre de choses. Le problème, c'est que les objets ne parlent pas, et j'ai découvert que on pouvait également collectionner des lettres de soldats. Et je me suis pris vraiment de passion pour ça, parce que on découvrait réellement ce que traversaient ces jeunes gars qui avaient mon âge. On comprend beaucoup plus. Le prix finalement de la liberté, en quoi c'est important de préserver la paix, parce que ils livrent leurs ressentis sur ce qu'ils traversent. C'est difficile de trouver des témoignages pertinents parce qu'il y avait la censure de l'époque, et puis ils voulaient pas inquiéter leur famille, donc ils s'auto-censuraient également. Mais en 15, maintenant presque 20 ans de collection, j'ai amassé des courriers absolument passionnants avec des histoires complètement inédites. On découvre aussi l'histoire à travers un nouveau prisme qui est celui de l'émotion, d'un destin humain qui a souvent été brisé par la guerre. Donc c'est une autre manière de découvrir notre histoire.
Et d'ailleurs, quel sentiment est-ce que vous avez éprouvé lorsque vous avez lu ces correspondances entre ces soldats, leurs familles, pendant cette période?
Typiquement, là, je suis en train de travailler sur un nouvel ouvrage où on suit un officier américain qui combat pendant la terrible bataille de Jürgen en Allemagne, qui est la bataille la plus longue de l'histoire de l'US Army. Et en fait, cet homme-là avait mon âge, il avait 34 ans, et il attendait son premier enfant. Et quand moi j'étais en train de lire ses lettres, j'étais tranquillement chez moi, à attendre moi aussi mon premier enfant, sauf que lui ne va pas assister à la naissance, il est au combat, dans un foxhole boueux, à prendre des obus d'artillerie à longueur de journée. Et c'est là, en fait, en lisant ces écrits-là, qu'on réalise la chance qu'on a, nous, de vivre dans un monde libre, en paix, enfin un petit monde, parce que tout le monde n'a pas cette chance, on le sait très bien aujourd'hui. Mais en tout cas, dans notre pays, on a la chance de vivre en liberté et à l'abri des bombes, pour l'instant. Mais du coup, voilà, c'est important de préserver tout ça. Et ça, on s'en rend vraiment compte en lisant ces témoignages qui sont anciens, mais pourtant qui sont si proches de nous, finalement.
Alors justement, vous nous parliez à l'instant d'émotion, de cette immense émotion que vous avez ressentie en découvrant ces lettres. Je peux vous parler de l'émotion que moi j'ai ressentie en lisant votre ouvrage. Parlez-nous de Leonard Wood, il avait 21 ans.
Oui, c'est un des nombreux soldats qui n'est jamais rentré chez lui. C'est un Britannique qui servait dans la 7e division blindée et qui a été tué près de Villers-Bocage. Et la lettre qui est publiée dans le livre est une lettre très simple. Où là, je l'ai sélectionnée non pas parce qu'elle donne des détails historiques sur les combats ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y en a pas. Hein. C'est une simple lettre d'amour où il dit juste qu'il n'a pas le temps de répondre aux questions de sa femme et qu'il le fera dans sa prochaine lettre. Prochaine lettre qu'il n'écrira jamais, parce que en fait il va être tué quelques heures après avoir écrit la lettre. Et d'ailleurs, cette lettre, je l'ai récupérée sans aucun tampon de censeur ou quoi que ce soit, et en fait elle a été renvoyée avec ses affaires personnelles, donc il la portait sur lui au moment où il était tué. Donc ça devient des objets qui ont une aura très particulière, parce qu'on touche l'histoire du doigt et en même temps on la comprend, parce que on a l'histoire d'un jeune gars qui a traversé la Manche pour nous délivrer du nazisme ou du fascisme, et qui a laissé la vie. Donc c'est important de se souvenir d'eux et de faire en sorte qu'ils soient pas morts en vain, parce que si on oublie, on recommence et tous ces sacrifices ne vont servir à rien.
Et Ray Halm, un charpentier de Chicago qui a débarqué à Omaha Beach, la boucherie d'Omaha Beach, et qui écrit à sa femme pour lui parler de ce dîner qu'ils avaient prévu à trois, et il la prévient que finalement ils ne seront que deux.
Oui, parce que son meilleur ami qui était dans son unité a été tué sur la plage. Et voilà, et des tragédies comme ça, il y en a eu beaucoup, hein, parce qu'il a fait partie déjà le soir même, alors de mémoire, hein, je crois qu'il faisait partie des 8 de sa compagnie qui s'en est sorti sans encombre, même s'il a eu une petite blessure légère. Mais voilà, en fait, lui, il va faire partie des très très rares, hein, dans le Second Ranger à traverser toute la guerre sans être tué ou gravement blessé. Il va juste se casser la jambe en jouant au baseball, en attendant le bateau qui va le ramener aux États-Unis. Mais voilà, c'est un miraculé, parce que c'est une unité qui a énormément souffert, hein, qui a été rendue célèbre par le film Il faut sauver le soldat Ryan, notamment. Mais voilà, oui, ses écrits sont exceptionnels, parce qu'il a une très belle plume déjà, et puis il racontait, hein, ce que c'était l'enfer de prendre les obus, les tirs de sniper, les mines, et de perdre des copains. Donc voilà, c'est un témoignage qui a énormément de valeur. Ouais.
Et d'ailleurs, il a inspiré le titre du livre.
Tout à fait, parce que voilà, comme il était dans une unité d'élite, et après c'était le cas, hein, pour la plupart des soldats, il y avait tout un stratagème aussi pour faire savoir aux proches, voilà, où il se trouvait exactement. Et le terme Till Victory était une signature codée pour lui faire savoir qu'il se dirigeait vers l'Allemagne. Voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant, parce que voilà, en attendant la victoire, ça représente l'espoir, ça représente l'attente de rentrer chez soi. Mais voilà, il y a un travail à faire avant, il y a un travail à accomplir. Et deux simples mots qui résumaient bien ce qu'ont traversé un très grand nombre de ces soldats qui n'attendaient qui avaient l'espoir de rentrer chez eux. Et malheureusement, ils n'ont pas tous eu cette chance.
Est-ce que ce travail fantastique, colossal que vous avez mené...
15 ans pour écrire le tome. Ouais.
Est-ce que justement ce travail, il n'est pas transposable à d'autres conflits plus récents? Qui pourrait éclairer, je pense à la guerre d'Algérie, je pense à l'Indochine, je pense pourquoi pas à des conflits qui sont étrangers à la France, la Yougoslavie, etc. Est-ce que vous avez imaginé pouvoir mener un travail de la sorte ?
Alors en fait, traiter des conflits qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus... compliqué, parce que c'est pas du tout des guerres qui ont été menées pour les mêmes raisons. Mon grand-père a fait l'Algérie, hein, on n'a jamais parlé de toute sa vie, à part sur son lit de mort, parce que voilà, c'est une guerre dont on a honte, parce que les guerres de décolonisation, c'est des conflits qui sont... Disons que la Seconde Guerre mondiale, c'était le dernier grand combat du bien contre le mal, et ça, on peut pas le nier, hein, le combat contre le nazisme, tout le génocide qui a été perpétré, etc., c'était des choses qu'il fallait stopper à tout prix. Et pour moi, c'est ça dont il faut se souvenir, et j'ai fait ce travail pour dire merci à ceux qui nous ont libérés. Maintenant, voilà, les combattants, peu importe les guerres, c'est avant tout des hommes, des femmes, des êtres humains. Faut pas l'oublier, il faut les voir avant tout comme des humains plus que des soldats. Et c'est aussi ça que je trouve passionnant dans les lettres, c'est qu'ils se présentent sous ce jour-là parce qu'ils n'ont pas besoin de glorifier ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas besoin de se faire passer pour des héros. Ils écrivent pas, c'est des courriers qui n'avaient pas vocation à être publiés à la base. Des lettres écrites à leur mère, à leur femme, à un ami, voilà, où ils disaient les choses comme elles étaient. Ils parlaient de leur peur, de la tristesse d'avoir perdu un camarade la veille, de leur envie de rentrer chez eux, et puis ils livraient leurs opinions très franches, très brutes sur les civils qu'ils rencontraient, ce genre de choses. Donc c'est des témoignages qui sont précieux parce qu'ils n'avaient pas pour vocation à être diffusés à la base. Je l'ai fait aujourd'hui avec l'accord des familles, évidemment, que j'ai retrouvé, ça faisait partie, c'est une grosse partie du travail, hein, sur ce livre, c'était retrouver les familles à travers le monde. Mais voilà, le fait que c'était des écrits privés à l'origine en font des témoignages exceptionnels, parce qu'on a de la sincérité qu'on ne retrouve pas dans un témoignage de vétéran 75 ans après les faits, qui peut peut-être enjoliver un peu l'histoire, ou en tout cas qui a oublié. Hein. Là, c'est des témoignages qui sont du terrain quelques heures après les faits, donc ça les rend passionnants. Et en ça, on retrouve des similitudes avec les combattants actuels, hein, quand même. Qui communique par email aujourd'hui, donc est-ce qu'il y aura une sorte de Till Victory plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est des humains avant tout, et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que finalement, les conflits peuvent être évités, parce qu'on a tous les mêmes envies, les mêmes aspirations, et c'est finalement d'être en paix et vivre tranquillement nos courtes vies.
Alors, est-ce que c'est un moyen aussi, puisque un sondage de l'IFOP qui date de 2018 révélait qu'un Français sur 5 de moins de 24 ans n'avait jamais entendu parler de l'Holocauste? Ouais. Est-ce que ce travail, votre présence aujourd'hui au Forum mondial Normandie pour la paix qui accueille des milliers de lycéens, est-ce que justement ça n'a pas vocation ? La vocation ultime, c'est d'inverser la tendance, d'inverser les courbes de cette méconnaissance des jeunes.
Les chiffres ont varié, hein. Il y a eu plusieurs sources différentes sur ces chiffres-là, mais peu importe, ils sont de toute façon effarants, hein, même si c'est quelque chose qui ne doit jamais être oublié. Maintenant, je pense que c'est triste à dire, mais j'ai un peu peur que ce soit un combat qui soit perdu d'avance. C'est-à-dire que l'oubli, c'est naturel. C'est naturel, et particulièrement aujourd'hui où j'avais sorti le tome 2 la veille de la fermeture de librairie au tout début du Covid, et clairement j'ai compris que la principale préoccupation des gens dans un contexte de pandémie mondiale, c'est pas un conflit qui a eu lieu plus de 75 ans plus tôt. Aujourd'hui on a la guerre en Ukraine, l'actualité bouge, le monde bouge, on se demande si dans un mois on sera toujours là, on se sera pas pris une bombe nucléaire. C'est normal qu'avec le temps les gens oublient, revoient leurs priorités, et puis on a qu'une mémoire à hauteur d'homme, quoi, hein, d'une génération. Donc finalement, que les nouvelles générations oublient, ne s'y intéressent pas. Je pense que malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Hein. Les combattants de la Première Guerre mondiale sont progressivement oubliés. Je ne parle même pas de ceux de 1870. C'est normal, c'est l'histoire qui suit son cours, et chaque génération a ses problèmes. Et maintenant c'est sûr que c'est le dernier grand combat qu'il y a eu contre un génocide de cette ampleur, contre une dictature absolument terrible, des dictatures terribles, hein, parce qu'il y avait l'Italie, tout ça. Et faut pas oublier pour pas que ça recommence, mais malheureusement, chacun doit faire sa part et on n'a pas tous les mêmes.
En Normandie, hein, une terre de symboles et une terre ô combien chargée d'histoire. Alors, en quoi l'action de la région Normandie, pour vous, est symbolique, est exemplaire ? Comment vous pourriez la qualifier, cette action menée tous les ans avec les gamins et tous les ans avec le grand public pour entretenir ce devoir de mémoire ?
Avec moi également, parce que je ne suis pas normand, et je suis touriste, je participe à ce tourisme de mémoire, et je trouve ça extraordinaire. C'est devenu la Normandie, c'est devenu une terre de pèlerinage finalement, hein, qui représente finalement, c'est un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale quand même, et l'offre est énorme en termes de musée, il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est des sites qui sont absolument sublimes, que je prends plaisir à visiter plusieurs fois par an. Je me considère presque normand, hein, d'adoption. Malheureusement ma femme n'aime pas la pluie, mais je compte bien la faire changer d'avis.
Il fait très beau en Normandie.
À chaque fois que je viens, il fait beau. Mais oui, mais c'est un mythe. Je suis sûr que c'est un mythe.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un projet, le projet Hommage aux héros, une sorte de site immersif historique sur le débarquement du 6 juin 1944, qui devrait voir le jour à 40 ans, hein, c'est dans la Manche en 2025. Un projet qui fait couler beaucoup d'encre depuis ces derniers mois. Comment vous, est-ce que vous le percevez ?
Je savais que j'allais pas couper à cette question, hein, mais moi je suis de loin un peu tout ça. Moi je suis ouvert à tout, je suis sûr qu'il va y avoir un très beau travail qui va être fait là-dessus, j'ai confiance. Moi je ne crie pas avant d'avoir mal, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je trouve qu'il est essentiel quand même de raconter l'histoire autrement, pas pour tout le monde, mais pour une certaine partie de la population qui va être plus réceptive à quelque chose d'un peu plus sensationnel en quelque sorte, à partir du moment où la partie historique est respectée, et je suis sûr qu'elle le sera. Je pense que c'est important d'avoir une porte d'entrée pour des nouvelles générations, pour qu'elles s'intéressent à ça. On va pas directement ouvrir un bouquin de 1000 pages sur une partie très précise de la Seconde Guerre mondiale comme ça de nulle part. On a été attiré par un film ou par un jeu vidéo ou par quelque chose qui nous a intéressé à cette période de l'histoire. Donc si ça peut parler à un public jeune ou plutôt familial, qui n'est pas passionné d'histoire mais qui a besoin d'être sensibilisé à travers un nouveau média, je suis tout à fait pour. Je pense que l'offre elle est suffisamment vaste pour contenter tout le monde, et je suis sûr que de toute façon ils sont attendus au tournant, et que ce sera très loin du D-Day Land comme ça a été surnommé, que certains veulent faire croire. Je suis sûr que ça va être un projet de toute façon qui va être bien plus réussi qu'on qu'on l'imagine.
Je rappelle votre ouvrage « À lire Till Victory, lettre de soldat allié ». Merci beaucoup Clément Horvath d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci Clément.
Merci.